Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie. Et c'est de Moyen-Âge et de littérature du Moyen-Âge que nous allons parler aujourd'hui avec mon invité, Monsieur Michel Zinc, que je remercie d'être venu. Bonjour, Monsieur.
Bonjour, Madame, c'est moi qui vous remercie de m'inviter.
Vous avez été élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en l'année 2000 et vous êtes professeur au Collège de France. Vous tenez la chaire de littérature de la France médiévale et on vous doit d'innombrables ouvrages sur la littérature du Moyen-Âge. Un mot sur la période et sur l'expression Moyen-Âge, justement, parce que c'est quand même une période très vaste. Et avez-vous une période plus particulièrement choisie ?
Comme tous les romanistes, parce que je m'occupe surtout de littérature française et occitane, je pourrais commencer théoriquement avec les premiers textes en langue romane au 9e siècle, mais pratiquement, je commence à l'extrême fin du 11e siècle et je fais jusqu'au 15e siècle. Le Moyen-Âge lui-même couvre 1000 ans, en gros, de la chute de Rome jusqu'à la chute de Constantinople, en gros. Mais l'expression est bizarre parce qu'un âge moyen, un âge médian, suppose qu'il y a eu quelque chose après, et avant et quelque chose après. C'est pourquoi on ne peut pas faire dire à des personnages, nous autres chevaliers du Moyen-Âge, comme selon l'expression bien connue. Et l'expression âge moyen a commencé à apparaître dès la seconde moitié du XVIe siècle. Et on définissait le Moyen-Âge et on l'a défini pendant très longtemps comme la période qui s'étend de la chute de Rome à la renaissance des lettres. C'est-à-dire que la chute de Rome était considérée moins comme un événement politique que comme un événement culturel. La disparition de la culture antique ou les menaces qui pesaient sur elle. Et à l'époque, on considérait que c'était une disparition momentanée, ce qui n'était en fait pas le cas. Et maintenant, nous sommes plus sensible à la continuité aussi bien entre l'Antiquité et le Moyen-Âge qu'entre le Moyen-Âge et ce que nous appelons la Renaissance, et de sorte que l'expression même de Moyen-Âge se justifie à peine. Et un dernier mot, la Renaissance des lettres, certains, dès le début, l'ont placée au moment de ce que nous appelons, nous, la Renaissance, mais ça s'étend sur deux siècles, c'est le XIVe siècle en Italie et c'est le XVIe siècle en France. Mais certains ont dit que la Renaissance des lettres, c'était la Renaissance du XIIe siècle, et certains considéraient même que c'était la Renaissance carolingienne, ce qui faisait un tout petit Moyen-Âge, et ce qui montrait que le Moyen-Âge est fait de renaissances successives et qu'en réalité, le passé de notre civilisation n'a jamais été oublié.
Merci pour ces précisions. En effet, en tout cas, le Moyen-Âge...
Elles
sont parfaites et elles nous sont bien utiles pour justement essayer de nous y repérer. En tout cas, le Moyen-Âge, il est aussi pour vous, personnellement, une source d'inspiration dans votre création littéraire, puisque vous avez consacré plusieurs romans. Alors, on s'étonne parfois de voir un spécialiste publier des romans. Vous avez écrit Le Tiers d'amour, un roman des troubadours. Le Jongleur de Notre-Dame, là, ce sont des contes chrétiens du Moyen-Âge. Et puis celui dont nous allons parler aujourd'hui, Déoda ou la transparence, qui est un roman sur le Graal.
Voilà.
Alors, j'ai évidemment beaucoup aimé votre personnage Déoda. Je me suis d'abord étonnée des prénoms, parce que Déoda et son frère Caïus sont tous deux fils divins, la voutre. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez un peu le choix des noms.
Oui, alors, je vais à reculons. Yvain la voutre, donc c'est Yvain le bâtard, et c'est un personnage qui apparaît effectivement dans certains romans arthuriens du Moyen-Âge, et en particulier dans le Haut Livre du Graal ou Perles Vos, qui a été mon point de départ et auquel j'ai emprunté le premier épisode. De même, Caïus est effectivement son fils dans Perles Vos. Donc Yvain la voutre, Yvain le bâtard, se distingue de Yvain, fils du roi Urien, le célèbre chevalier au lion, qui intervient aussi dans mon roman.
Absolument.
Quant à Déoda, j'ai appelé mon héros Déoda, comme j'aurais pu l'appeler autrement, et ce nom de Déoda me plaisait. C'est à peu près le nom du fils de saint Augustin. Et comme j'ai passé de longues années à Toulouse et que mon cœur y est resté attaché, j'ai pensé au musicien Déoda de Sévrac. Et avec tout ça, mon petit Déoda, parce que c'est un tout jeune homme et presque un enfant, est né.
Voilà. En tout cas, ça n'est pas le chevalier du Graal tel qu'on se l'imagine. Est-ce que ce n'est pas plutôt une sorte d'anti-héros, d'une certaine façon ?
Oui, c'est un anti-héros, et mon roman, d'une certaine façon, est un anti-roman du Graal. Le sous-titre, le titre est « Déodat ou la transparence ». Et Déodat est un personnage transparent, d'abord parce qu'il est très jeune, parce qu'il a un rang infime à la cour du roi Arthur, donc on ne le voit pas. Il est écuyer, même pas écuyer, il est là pour servir, et les regards le traversent. Mais aussi, le son, si on peut dire, du roman, bien que ce ne soit loin d'être un roman didactique, c'est que la véritable quête et le véritable salut ne se trouvent pas au bout d'un chemin où l'on accumule les titres, la noblesse, les exploits et tout ce qui se voit, mais un chemin qui est au contraire un chemin, une sorte de dépouillement, parce que le mystère n'est pas un mystère ésotérique qui arrive au terme de nombreuses aventures compliquées, qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir, mais c'est une sorte de mystère en pleine lumière qui est à portée de main si on sait le voir, et qui est particulièrement à portée de main des plus simples et de ceux qui sont eux-mêmes transparents. Alors c'est une leçon que le Moyen-Âge aurait très bien compris, parce que c'est une leçon au moins qui est colorée en transparence, si on peut dire, par une sorte de... C'est une leçon du christianisme, d'une certaine façon. Et le Moyen-Âge est une époque profondément chrétienne. Mais en même temps, les romans du Graal médiévaux sont des romans pleins du fracas des armes et du rayonnement de la gloire, de sorte que je ne me suis pas situé, au moins en apparence, dans la lignée de ces romans. J'aurais peut-être mieux fait de le faire pour le succès commercial du livre, mais j'ai choisi autre chose.
Mais effectivement, mais votre livre, justement, ne manque pas de scènes assez cruelles. J'ai été surprise, en effet, qu'il y ait quand même du sang et de la cruauté.
Oui, parce que, alors, mon petit héros est à la fois fasciné par les chevaliers et effrayé par cette cruauté qu'il découvre. Cette cruauté, là encore, je n'ai pas inventé, et les scènes les plus cruelles sont tirés précisément du Père Lesvos. Je me suis inspiré, il y a des allusions au roman de Chrétienne III, au L'Aide-Marie de France, à toute une série d'œuvres, mais ce roman très, très étrange et très sauvage, Père Lesvos, c'est le nom de Perceval dans ce roman. On l'appelle ainsi parce que son père est supposé avoir perdu les veaux, les vallées de Camelot sur lesquelles qu'il possédait, n'est-ce pas ? Et au lieu de Perceval, c'est au pluriel Père les veaux. Enfin bon, ferme la parenthèse. Et dans ce roman, justement, Perceval, Père Lesvos, est cette espèce de jeune fou d'une cruauté démente que l'on voit dans mon roman.
Oui, justement, donc vous nous bouleversez nos schémas habituels à propos du Graal.
C'est une erreur, il ne faut jamais bouleverser les schémas.
Mais si, je crois que c'est au contraire une très bonne chose. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a deux courants à propos du Graal, un Graal et un héritage celtique et un Graal chrétien ?
Oui, c'est-à-dire, il y a un mystère des origines de cette légende du Graal. Le premier en parler, c'est Chrétien III, et on ne sait pas exactement où il a pris ça, si
c'est
je puis dire.
C'est 11e siècle
Non, 12e. Chrétien III, c'est son dernier roman, et il l'a écrit entre 1181 et 1185, si c'est pas quelque chose comme cela. Et puis, peu de temps après, il y a le roman de Robert de Boron, dont nous reparlerons peut-être. Il y a le roman allemand, le Parsifal de Wolfram von Eschenbach, mais qui s'inspire de Chrétien, mais qui en même temps ajoute tellement d'éléments qu'on ne sait pas s'il n'y avait pas une autre tradition à côté. Mais en tout cas, d'un côté, le Graal est une sorte de vase d'abondance ou de récipient lié à la fécondité, puisque naturellement, on a fait un rapprochement entre la blessure à la cuisse du roi pêcheur, la stérilité de sa terre et la malédiction qui pèse sur le Graal. Et les rapprochements mythiques avec le monde celtique ou avec la mythologie celtique sont évidents, d'une certaine façon, crèvent les yeux. Mais en même temps, dès Chrétien III, le Graal est un vase sacré chrétien, puisqu'il contient l'hostie dont se nourrit le père du riche pêcheur, le vieux roi. Et Robert de Boron le tirera complètement du côté chrétien en en faisant le vaisseau dans lequel Joseph d'Arimathie aurait recueilli le sang du Christ. D'abord, le vase de la dernière scène, le calice de la dernière scène, en somme, et le vase où Joseph d'Arimathie a recueilli le sang du Christ. Alors, on ne sait pas si ce qui est premier, si c'est une légende chrétienne qui a été ensuite mélangée à la mythologie celtique, si c'est une légende celtique dont on a vu tout de suite les rapprochements avec le christianisme, tout cela reste obscur et les deux pistes ont leur légitimité.
Alors justement, comment a pu se faire cette transition entre l'histoire de Joseph d'Arimathie? Comment c'est arrivé? Par un évangile apocryphe?
Oui, alors ça c'est le dernier chapitre d'un autre livre. Enfin, pas du roman. Dans le roman, évidemment, je ne raconte pas tout ça sur le Graal. Donc, Joseph d'Arimathie parle du Graal comme si ça allait de soi. Il faut dire que le mot Graal lui-même est un nom commun qui existe mais qui est rare. Qui existe plus en Languedoc qu'en Languedoïle, ce qui a fait supposer des origines occitanes au Graal, mais d'un autre côté, il n'y a pas de trace d'un Graal en Languedoc, pratiquement pas de trace. Et ce mot désigne un récipient un peu creux, assez grand, qui peut servir de plat à poisson, ou un peu pour pouvoir en contenir la sauce, etc. Bon. Et Chrétien de Troyes l'emploie, mais ce mot très rare, de façon un peu bizarre. Joseph d'Arimathie, lui, en fait, adapte dans son premier roman l'évangile de Nicodème, qui est un évangile apocryphe, qui raconte en quelque sorte la suite, ou ce qui manque, si on peut dire, dans les évangiles canoniques. C'est-à-dire qu'il raconte très longuement la descente du Christ aux enfers. Il y passe les 3 jours pendant lesquels il est mort. Qu'est-ce qu'il y a fait? Il nous le dit. Et ensuite, il poursuit avec les persécutions contre Joseph d'Arimathie exercées par les Juifs. Et puis, l'histoire se poursuit avec la vengeance de Vespasien contre les Juifs, enfin, de toutes sortes d'histoires. Bon. Et alors, cet évangile apocryphe, qui ne contredit pas les évangiles canoniques, contrairement aux autres apocryphes, mais qui les complète, était considéré comme apocryphe, mais pas tellement aussi apocryphe que ça. Il a eu un très très grand succès au Moyen-Âge. Certains grands théologiens, y compris saint Thomas d'Aquin, se fondent sur lui pour établir des points du dogme, en somme. Et il a été traduit en langue vulgaire plusieurs fois. Donc Robert de Boron, en somme, le traduit. Mais à un moment donné, au lieu de traduire ce qui intéressait le plus, qu'on traduisait le plus, c'est-à-dire la descente du Christ aux enfers, lui traduit et développe les malheurs de Joseph d'Arimathie, et là-dedans, il introduit d'ailleurs assez habilement le Graal, qui ne figure pas naturellement dans l'évangile de Nicodème, et ensuite dérive vers une histoire du Graal, qu'il prolonge ensuite par un roman de Merlin, qui conduit jusqu'au roi Arthur, et il raconte ainsi l'histoire de ce vase mystérieux et sacré, et de ces gardiens qui appartiennent au lignage de Joseph d'Arimathie, de la passion du Christ jusqu'au roi Arthur.
Alors justement, il y a vraiment un lignage, et ceux qui ne sont pas de ce lignage n'ont donc pas accès à ce salut. C'est un peu l'histoire de votre roman, au fond, jeune homme, lui, n'a pas accès, puisqu'il n'est pas du lignage.
Voilà, alors, je force un peu les choses. Dans le cycle du Lanceau-Graal, dans les romans du Graal, on voit des élus, en dehors des grands élus, Perceval chez Chrétien de Troyes et dans le Perle Svos, Galahad, le fils de Lancelot, dans le grand cycle du Lanceau-Graal, Bor, le cousin de Galahad, mais il y en a d'autres. Et ces autres-là n'appartiennent pas au lignage du Graal. Ce sont tous des chevaliers qui se sont illustrés par les armes dans le cadre de la chevalerie spirituelle, si on peut dire. Mais ils n'appartiennent pas au lignage du Graal. Alors j'ai un peu forcé les choses, évidemment, dans mon roman pour montrer l'exclusion de mon petit Déoda. Mais il ne se sent pas seulement exclu parce qu'il n'appartient pas au lignage du Graal, mais qu'il n'appartient à aucun lignage. Que son père s'appelle Yvain, comme le célèbre Yvain, le chevalier au lion, le fils du roi Urien, mais son père est un bâtard. Donc cette homonymie entre le nom de son père et celui du chevalier au lion qui est fils de roi lui est particulièrement douloureuse.
Oui, c'est comme un secret de famille. Au fond, ce jeune homme, il part à la quête de son secret de famille.
Voilà. Et alors, il y a un secret de famille, effectivement, qui sera révélé au bout. Et un premier épisode, qui est ce qu'il y a de mieux dans mon roman, parce que ce n'est pas de moi, qui est tiré justement au livre du Graal. Un jeune homme qui meurt d'une blessure reçue en rêve. C'est une scène très saisissante.
Alors, Michel Zinc, Déoda ou la transparence, un roman du Graal, c'est paru au Seuil. Et je voudrais qu'on parle aussi d'un autre ouvrage, alors d'un genre tout à fait différent, puisque j'en ai choisi deux, qui est lui paru au PUF, P-U-F, Presse universitaire de France, Poésie et conversion au Moyen-Âge. Alors il est évidemment question de poésie, et vous démontrez dans ce livre que la poésie qui, au sortir de l'Antiquité, était attachée au paganisme, n'avait pas été admise au fond par le christianisme, petit à petit elle va prendre sa place, et le poète va finir par devenir, c'est possible, un être inspiré de manière divine.
L'idée de départ était, comme vous l'avez très bien dit, que la poésie dans l'Antiquité classique, comme dans la plupart des civilisations, est une sorte de médium du sacré. Le poète est un inspiré. Platon lui-même, qui n'aime pas les poètes, le dit. Enfin, il les aime, mais il ne les veut pas. Le poète est animé par le furor poeticus, c'est l'enfant des muses, etc. Puis, là-dessus arrive le christianisme. Dans le christianisme, Dieu s'est fait homme. Il a vécu parmi les hommes, il a parlé directement aux hommes, il y a les évangiles qui recueillent ce qu'il a dit. On n'a pas besoin de la poésie, il n'y a pas de place pour la poésie. Alors, la poésie, à ce moment-là, n'est qu'un pur ornement, et suspecte à ce titre. Elle est mensongère parce qu'elle invente des fictions, et elle est doublement mensongère parce que elle est liée au paganisme antique, et le mot poète même, jusqu'au XIVe siècle, désigne les prêtres, en somme, du paganisme. Mais tout de même, naturellement, on ne peut pas tuer la poésie comme ça, elle continue à exister. Elle doit se trouver une raison d'être, une nouvelle raison d'être. Cette nouvelle raison d'être, elle la trouve d'abord dans l'amour. Et c'est pourquoi, c'est au moins ma théorie, c'est pourquoi l'amour devient au Moyen-Âge la grande affaire de la poésie, au point que pour nous, ça va ensemble. Quand on est amoureux, on écrit des poèmes, etc. Alors que dans l'Antiquité, il y avait bien une poésie érotique et élégiaque, mais c'était un genre mineur, en quelque sorte. Tandis que, puisqu'on ne peut plus rapporter l'enthousiasme du poète à la divinité, on le rapporte à l'amour. Mais en même temps, il est trop rude de devoir renoncer à cette dignité de la poésie, et peu à peu, on reprend conscience, en quelque sorte, qu'il peut y avoir une inspiration à travers le poème. D'ailleurs, le roi David en est un exemple, n'est-ce pas ? Et les psaumes en témoignent. Et qu'il peut y avoir une légitimité du poète qui médite, en fait, sur les réalités divines. Et cela d'autant plus, je suis toujours trop long, mais j'ai presque fini, cela d'autant plus que cette poésie médiévale met l'amour au centre de ses préoccupations, mais au bout d'un moment, l'amour d'abord c'est l'éros, c'est la passion amoureuse, mais au bout d'un moment, elle se met à réfléchir sur la totalité de l'amour, et elle cherche à insérer l'éros dans un tout de l'amour, comprenant eh bien, l'amour naturel, comme ils disent, pour les parents, pour les enfants, etc. L'amour du prochain, la charité, l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, on a une grande poésie intellectuelle qui médite sur l'amour sous toutes ses formes et qui est illustrée, mettons, par Jean de Main en français, mais surtout par Dante.
Canal Académie.
Il fut le familier de Brancusi, Bourdel ou encore Mayol. La vie d'Antoine Poncet s'apparente à un roman nuancé, balancé entre la Suisse et la France. Découvrez cet artiste au grand talent qui est aussi en 2009 le président de l'Académie des Beaux-Arts. Plongé dans son univers et son atelier de la rue Saint-Simon à Paris. 67 ans de travaux, des rêves et toujours de la joie. Écoutez l'émission Antoine Poncet, un sculpteur au royaume de l'art.
Alors, Michel Zinc, au fil des pages de votre ouvrage « Poésie et conversion au Moyen-Âge », on rencontre des personnages fascinants. L'un de ceux qui me fascine, c'est Bède le Vénérable. D'abord, il a un nom tout à fait fascinant, parce que je pense que c'est un vénérable, c'est-à-dire un homme qui a été sanctifié par l'Église, et, n'est-ce pas ?
Est-il saint ou seulement bienheureux ? Il doit être saint, je ne veux pas
lui
faire de
tort. Je crois qu'il est saint, parce que je crois que c'est un des rares saints anglais, justement.
Il est saint,
Alors Bède, il est grammairien, il est métricien, il est critique littéraire, il est exégète, il est plein de choses, il est tout. Alors, il s'est occupé du calendrier, je crois aussi. Et il a été l'auteur d'une histoire ecclésiastique du peuple des Angles.
Voilà.
Et il raconte, et c'est là que vous allez nous raconter.
Qui a été édité récemment avec une traduction en français, par les soins en particulier de mon confrère André Crépin.
Très bien.
De l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres.
Alors, Bède le Vénérable raconte l'histoire de l'abbesse Hilda qui avait un berger, Caedmon, et ce berger, qui était totalement illettré, tout d'un coup se met à chanter des poésies. Il refuse de chanter des poèmes profanes, il n'en est même pas capable. Voilà. D'ailleurs, il s'enfuit dans les banquets quand on lui demande de chanter. Mais par contre, il se met à chanter des choses religieuses. Alors, ça apparaît comme figures.
Voilà. Alors, pour moi, cet épisode qui est extrêmement célèbre, et d'ailleurs, on a des poèmes en vieil anglais attribués à ce Caedmon, est tout à fait symptomatique de cette sorte de réhabilitation de la poésie sous le regard religieux. Et en effet, Caedmon, dans une société où tout le monde sait chanter des poèmes en s'accompagnant de la petite harpe celtique, le pauvre berger Caedmon, lui seul, ne sait pas. Et comme on dit, se sauve quand la harpe passe de main en main dans les banquets, et quand elle approche de sa place, il se sauve, il va se coucher. Et une nuit, c'est ce qu'il fait, et il s'endort, et dans son sommeil, une voix l'appelle et lui dit « Caedmon, chante pour moi ». Et il dit « Mais je ne sais pas chanter, c'est même pour ça que je vais aller me coucher. Chante pour moi. » Et que dois-je chanter ? Chante le commencement des créatures. Et Caedmon chante un poème en vieil anglais, puisque c'est la... Enfin, en vieil anglais, en anglais. C'est comme le Moyen-Âge, je pense.
En dialecte nord-umbrien, j'ai noté.
Et qui est le récit de la Genèse. Et le lendemain, il le chante à l'intendant, en somme, du monastère, et qu'il emmène devant cette abbesse. Il rechante, tout le monde est stupéfait, on fait venir des exégètes, c'est absolument correct, etc. Et alors, ce qui m'a frappé dans le récit de Bède, c'est que Bède insiste beaucoup sur le fait que ses poèmes sont beaux et que la métrique en est correcte, alors que Caedmon, naturellement, est illettré. C'est-à-dire que le signe que l'inspiration est divine, c'est que la poésie est belle et bien faite. Donc, ce soupçon sur la poésie est en train de disparaître, puisque ce qui la rendait suspecte d'être un art de l'ornement avec des règles frivoles, au contraire, cela montre que Dieu l'a inspirée. C'est très très significatif de la réhabilitation de la poésie, et en même temps dans un cadre qui correspond tout à fait à cet esprit de l'Évangile, les premiers seront les derniers, le qui perd gagne, en somme, je te bénis mon Père d'avoir caché tout cela aux sages et de l'avoir révélé aux simples. Donc l'histoire est à tous égards extrêmement frappante.
Alors il y a une autre histoire, et on aime beaucoup, Michel Zinc, vous entendre raconter ces histoires. C'est celle du petit porcher de Soissons. Elle est racontée par Gauthier de Coincy. C'est aussi une histoire d'inspiration divine à la suite d'un miracle. Alors.
Voilà, alors l'histoire du petit porcher est une histoire qui est proche, en somme, de celle de Caedmon, qui est un petit peu en retrait sur elle du point de vue de l'importance attachée à la poésie. En revanche, Gauthier de Coincy lui-même est un auteur extrêmement intéressant qui a écrit, donc dans il vivait à la charnière du XIIe et du XIIIe siècle, et qui a écrit une très grande collection de miracles de la Vierge en vers français. Et du point de vue de la poésie, ce qui est intéressant chez Gauthier de Coincy, c'est que au début, enfin il a écrit cela en deux livres, au début du deuxième livre, il y a un très long prologue où il s'explique sur sa manière d'écrire à la louange de la Vierge. Il y a donc des récits en vers, des récits de miracles, et aussi des chansons au début à la fin de chaque livre. Et il dit « Je préfère parler comme le prophète plutôt que comme le poète, et dire la vérité simplement » au lieu d'avoir un langage orné et inspiré par les païens. « Je préfère Luc à Lucain », dit-il. Et bon, etc. Alors, il y a un grand développement qui a, enfin, avec quelques siècles d'avance, la même résonance et un peu dans le même contexte que le fameux passage d'Agrippa d'Aubigné dans les Tragiques, où il se justifie d'écrire une épopée tragique de la foi, et ni enfant de vanité qui voulait tout poli, à qui le style saint ne semble assez joli, qui voulait tout coulant et coulé misérable dans l'éternel oubli, endurer mes vocables longs et rudes. Et Gauthier de Coincy a 50 vers pour dire la même chose. Mais Gauthier de Coincy est un auteur particulièrement maniéré. Et il vous explique qu'il écrit dans le style simple, qu'il veut pas avant ça, avec des jeux de mots constants, des rimes recherchées, des espèces de calembours, de sorte que le tout laisse perplexe et que c'est un autre type de réhabilitation de sa poésie.
Et alors, puisqu'on parlait de miracles, il y en a un qui semble avoir répertorié les miracles qu'on attribue à la petite sainte foi de Conques, c'est Bernard d'Angers.
Oui. Alors oui, Bernard d'Angers, donc à Conques, on vénérait donc la petite sainte foi martyrisée à 13 ans. Et alors, bon, l'église de Conques est admirable, comme chacun sait. Et maintenant, il y a eu Vitraux de Soulages. Mais enfin, le tympan de Conques est une des merveilles du monde. Et on y conserve un buste reliquaire extrêmement barbare qui représente la petite sainte foi. Mais enfin, c'est pas vraiment une petite fille. Elle n'est pas particulièrement engageante. Mais enfin, bref, on vénérait sainte foi à Conques. Mais on se posait des questions en haut lieu sur le bien fondé de cette dévotion. Une si petite sainte, martyrisée si jeune, était-ce bien raisonnable? Et puis, elle était très vénérée. L'un des premiers poèmes en langue vulgaire romane est une chanson de sainte foi en occitan. Et alors, on a envoyé ce Bernard d'Angers pour enquêter, pour voir si c'était sérieux. Et il a fait un dossier là-dessus. Et en particulier, il a été frappé par un miracle qui lui a paru parfaitement convaincant, hein, et montré que la petite foi était vraiment une sainte. Hein, sancta fides. C'est que il y avait les paysans des alentours avaient une grande dévotion à sainte foi, et ils entraient dans l'église de Conques, où il y avait les moines, et ils chantaient des chants rustiques, incompréhensible et barbare en l'honneur de la sainte. Alors ça troublait l'office monastique. L'abbé de Conques lui a raconté que, et Bernard d'Angers s'en indigne et dit « Pourquoi ne les mettons pas à la porte ?»« Ah, dit l'abbé, oui, c'est ce qu'a essayé de faire mon prédécesseur. » Il les a mis à la porte et l'office s'est célébré, porte fermée, mais miraculeusement, les portes sont ouvertes et les paysans sont rentrés et on a vu que ces chants, bien que barbares, plaisaient à la petite sainte. Alors là, on voit que Bernard d'Angers ne trouve pas que ces chants sont beaux, il les trouve épouvantables. Il ne les comprend pas, il faut dire qu'à Angers, on ne parle pas la même langue qu'à Conques, de sorte que... Mais il ne fait pas l'effort de les comprendre. Mais ce qu'il l'admet tout de même, c'est que l'intention vaille pour mérite, et qu'un effort poétique puisse plaire à la petite sainte. À part ça, la petite sainte a été capable de déverrouiller les portes, donc elle est bien sainte. Enfin, il revient avec un rapport absolument favorable, et aussi, la petite sainte foi de Conques mérite-t-elle le culte dont elle a l'objet, la dévotion.
Alors, tout à l'heure, vous parliez d'un autre personnage que l'on croise au fil des pages de votre ouvrage consacré à la poésie. C'est Robert de Boron, justement, donc, qui a écrit, lui, un livre sur Joseph d'Arimathie.
Oui, alors Robert de Boron a cette particularité, pour autant qu'on puisse le connaître par les recoupements et par des documents d'archives, que c'est un chevalier, donc ce n'est pas un clerc. Ou alors, enfin bon, comme on ne sait pas grand-chose de lui, on ne sait pas trop. Mais enfin, chevalier franc-comtois qui est allé en Terre Sainte avec son suzerain, enfin bon, qui a écrit ce roman, d'après ce qu'il dit dans le prologue, soit juste avant de partir, donc vers 1200, soit à son retour, vers 1210. Et alors, ce n'est pas Robert de Boron, à la différence de Chrétien de Troyes, à la différence même de Gautier de Coincy, n'est pas un grand poète. On ne peut pas dire qu'il écrive particulièrement bien, quoiqu'il ait plus de mérite qu'on l'ait soutenu. Mais il est tout à fait énigmatique parce que il a eu cette idée de coudre ensemble l'évangile de Nicodème et cette histoire du Graal. Et comme je le disais tout à l'heure, on ne sait pas d'où a pu lui venir cette idée. Et non seulement d'y coudre l'histoire du Graal, mais de prolonger jusqu'au roi Arthur, ce qui montre qu'il a tout de même le sentiment que le Graal, c'est quelque chose qui appartient au monde arthurien, et qu'il en raconte en quelque sorte la préhistoire, en remontant à Joseph d'Arimathie. Alors il a écrit donc un roman connu sous le nom de Joseph d'Arimathie en vers, donc à l'époque tous les romans étaient en vers, les romans en prose n'apparaîtront que quelques décennies plus tard, enfin pas longtemps après. Mais... Et puis un autre roman en vers, Merlin, dont nous n'avons que les 500 premiers vers, et ensuite c'est perdu. Mais nous avons une mise en prose de ce Merlin. plus tard, il a été mis en prose, comme ça c'est fait très souvent. Et en comparant avec les 500 premiers vers, on peut voir que la mise en prose est extrêmement fidèle. Donc on peut se fier à la mise en prose. Et puis il y a un troisième roman, connu sous le nom de Dido Perceval, qui est toujours l'histoire du Graal et de Perceval, mais qui prend la suite des deux précédents, et dont on ne sait pas si c'est la mise en prose d'un troisième roman de Joseph d'Arimathie ou s'il a été écrit indépendamment. Mais alors tout cela crée une tradition, une continuité littéraire liée au grand cycle en prose du Lancelot Graal, mais différente et antérieure, puisque Robert de Boron vient avant. Et quant au Lancelot Graal, on a commencé par l'histoire de Lancelot, ses amours avec Guenièvre, puis on dérive vers le Graal, et une fois que tout est fini, il y a Quête du Graal, écrit par un autre auteur cistercien d'inspiration cistercienne, La mort du roi Arthur, et ensuite on a rajouté au début une histoire du Graal, qui est une adaptation et un Merlin, qui sont des adaptations de Robert de Boron, mais alors adaptées pour coller avec le nouveau cycle. Enfin, toute cette tradition littéraire est très compliquée, et Robert de Boron joue là-dedans un rôle qui a été, à mon avis, sous-évalué, qui est essentiel. Mais une fois qu'on a dit ça, ça reste mystérieux. En revanche, ce que j'ai essayé de tirer de son Joseph d'Arimathie, enfin, sont des conclusions sur l'idée qu'il se fait du Graal, qui à mon avis est plus un ciboire qu'un calice, enfin ça c'est autre chose. Je parle comme dans Anatole France, on dirait l'abbé, je ne sais plus comment, dans l'ordre Medumail. Enfin, bon.
Michel Zinc, dans la Bible, il y a des grands textes qui sont à la fois des poésies et des musiques, ce sont les psaumes. À partir de quel moment du Moyen-Âge a-t-on commencé à les traduire, à s'en servir, à prier avec,
On a prié avec depuis les débuts de l'Église.
Oui.
Les psaumes ont soutenu la prière chrétienne dès le début du christianisme. Et les offices se sont construits autour d'eux. Regardez, les offices monastiques sont construits autour de la lecture des psaumes et on lit dans la semaine ouais, tout le psautier et où on le chante. Alors, les psaumes ont été traduits assez vite en langue vulgaire, en même temps que d'autres passages de la Bible. Et il y a une Bible entière dès le XIIIe siècle, mais on a des traductions des psaumes en français dès le XIIe siècle. Et on a aussi, comme ça se faisait, c'était uniquement des traductions glosées. C'est-à-dire qu'on traduit un verset et puis il y a un commentaire et la traduction et le commentaire sont imbriqués.
Vont ensemble.
J'ai commenté dans mon livre une traduction en prose française, probablement cistercienne, elle aussi, de la fin du XIIe siècle, du psaume 150, du dernier des psaumes, la louange à Dieu sur les différents instruments de musique, qui est à la fois qui m'intéressait justement à cause du rapport avec la poésie et la musique et avec la louange de Dieu à travers les arts, et aussi parce que c'est un texte très caractéristique de la spiritualité, on peut presque dire de la mystique cistercienne, enfin de la spiritualité en tout cas, et de cette sorte de double montée vers Dieu qui caractérise toujours ces textes. Il y a une sorte d'ascension jusqu'à Dieu, puis on est tout près de la contemplation. Et à ce moment-là, il faut redescendre à l'amour concret du prochain, mais puis refaire le trajet pour arriver enfin à la contemplation. Mais c'est un mouvement qui est à peu près justement celui des romans de Chrétien de Troyes, mais ça nous entraînerait trop loin.
Alors, nous n'irons pas plus loin et nous le regrettons, mais Michel Zinc, nous vous remercions beaucoup. Donc, je rappelle les titres de ces deux livres dont nous avons parlé au cours de cette émission Au fil des pages. Donc, Déodat ou la transparence, un roman du Graal paru au Seuil, et puis Poésie et conversion au Moyen-Âge, qui lui est paru au PUF, Presse universitaire de France, dans la collection Perspectives littéraires. Michel Zinc, merci.
Merci, chère madame.